Je vous invite à suivre à présent l'émission en dialogue entre Congolais avec Alain Kong à la présentation.
Bonsoir, deux thèmes dans cette émission. D'abord, le projet de budget 2010 renvoyé au Parlement par le chef de l'État pour une seconde lecture. Comment analyser l'acte posé par le chef de l'État? Deuxième sujet, Carole de Gucht, commissaire européen au développement, interdit de fouler le sol congolais pour des propos jugés malveillants à l'endroit du gouvernement. Comment comprendre cette réaction du gouvernement? Pour les deux thèmes, nous aurons les mêmes invités. Il s'agit de Jean-Claude Nzwemba, député national de l'opposition et président du parti Mouvement du Peuple Congolais pour la République MPCR. Il est en ligne. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Professeur Sibangu Kalala, député national, membre de la majorité présidentielle. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, monsieur.
Vous l'avez compris, il est avec nous dans ce studio. Également dans ce studio, professeur Mbwebwa Kalala, politologue et professeur à l'Université catholique du Congo, ex-faculté catholique de Kinshasa. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le projet de budget 2010 a été renvoyé au Parlement par le chef de l'État pour une seconde lecture. Le ministre de budget a officialisé cette information vendredi lors d'une communication faite à la presse. Parmi les raisons évoquées figure la répartition des recettes additionnelles. Pour Michel Lokola, la nécessité d'aligner les dépenses contraignantes sur les recettes courantes dont la survenance est certaine est l'un des motifs de cette décision. Des explications avec Julien Nyamouni.
Si le ministre de budget évoque trois principes fondamentaux dont l'obligation constitutionnelle d'allouer aux provinces la quotité des recettes à caractère national qui leur revient, le renvoi du projet de budget par les chefs de l'État est avant tout dû à une mauvaise répartition des recettes additionnelles. Cette situation est imputée d'après plusieurs sources à la commission paritaire Assemblée nationale Sénat, mais les deux commissions économico-financières rejettent ces affirmations parues dans la presse. Les élus se seraient réservés 50% de ces recettes additionnelles. Cette affectation est jugée par d'autres catégories sociales comme déséquilibrée. Autre détail, selon la présidence de la République, cette affectation ne prend pas non plus en compte les engagements internationaux souscrits par les bailleurs de fonds, dont notamment le Fonds monétaire international. La seconde lecture de ce projet de loi permettra à l'autorité budgétaire de tenir compte de toutes les observations soulevées par le chef de l'État. Mais en attendant, le gouvernement devrait déposer un projet de loi portant ouverture de crédits provisoires pour le fonctionnement de l'État.
Honorable Jean-Claude Nzwemba, juste le temps de rappeler que vous êtes député national de l'opposition et président du parti Mouvement du Peuple Congolais pour la République, MPCR. Comment analysez-vous ce geste qu'a posé le président de la République en renvoyant...
La première chose, il faut tout d'abord bonsoir à l'honorable Kalala Sibangu, que je connais très bien, ainsi qu'au professeur Nzwemba de la faculté catholique, qui a déjà eu l'insigne honneur de m'inviter à un colloque l'année dernière, et ainsi qu'aux auditeurs et auditrices de Radio Okapi, ainsi qu'à vous-même. La première chose que je voudrais dire, le président de la République vient de donner un carton rouge à deux grandes institutions. La première, le conseil, enfin le gouvernement, la seconde, le Parlement. Tout cela c'est quoi? C'est prévisible. Quand nous sommes en train de dire aux gens que le budget qui était venu au Parlement était un budget assez loufoque et assez inexplicable, les gens ne nous comprenaient pas. Nous avons essayé de dire où est la réalité, où est le bien-être, où est l'avancement de la vie sociale des Congolais et des Congolais. Il n'en avait pas. Effectivement, tout simplement parce que, plus grave encore, nous avons eu un ministre de la République qui est arrivé avec deux budgets, un pour l'Assemblée nationale, un autre au rabais pour le Sénat. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il était impossible de voter ce budget. Et pendant que le président de la République lui-même nous se joint à l'opposition pour rejeter ce budget, nous nous disons qu'effectivement, la majorité mécanique doit se rendre compte qu'il est grand temps qu'il commence au moins à comprendre que l'effort de la nation à travers le Parlement doit être sans concession et sans allégrance par rapport à leur compétence politique. Sauf pour cela, nous disons ceci. Effectivement, le ministre du Budget essaie un peu aussi de gonfler certaines choses. Nous savons tous que le 500 ou 1 milliard là, qu'il est en train de dire, le frein de fonctionnement, qui devait couvrir le Parlement, le Sénat, les frais de fonctionnement, ainsi que les salaires des administratifs. Il faudrait aussi dire qu'il y a plus de 1000 administratifs entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Bon, moi je crois que dans ce genre de rubrique, c'est toujours facile de le dissocier. Mais, le bilan social de ce budget a été refusé par la population congolaise à travers l'opposition et maintenant le président de la République. S'il était dans la salle, il aurait voté comme Jean-Claude Wemba, comme Roger Lumbala, comme Jean-Pierre Lissana Bumanga, comme les Mouanda Fémi.
Honorable Jean-Claude Wemba, vous faites sourire le professeur Sibangu Kalala. Professeur, vous êtes également député national, membre de la majorité présidentielle. C'est un carton rouge au gouvernement et au Parlement, comme l'a dit Jean-Claude Wemba. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, merci beaucoup encore une fois pour m'avoir invité à cette émission. Comme l'a fait mon collègue et ami Jean-Claude Wemba, moi aussi je suis très heureux de l'avoir comme contradicteur ce soir. Et je lui dis bonsoir et je lui souhaite encore une fois de meilleurs voeux pour 2010. Non, je ne vois pas les choses en termes de carton rouge. Non. Mais c'est bon. Les auditeurs de Radio Capi doivent savoir que notre Constitution donne au président de la République un droit de veto concernant toutes les lois sans distinction. Si le président de la République constate qu'une loi votée par le Parlement et qui lui a été transmise pour être promulguée comporte certains aspects, tel ou tel article, qui a des choses qui ne marchent pas, eh bien, en tant que président de la République, il a le pouvoir, il a le droit de poser, de veto, de refuser de promulguer la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement. Il peut donc renvoyer, c'est l'article 137, alinéa 1er, la Constitution, il peut donc renvoyer en seconde lecture cette loi au Parlement, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, avec des observations, en disant, moi, président de la République, je ne suis pas satisfait sur tel ou tel aspect de cette loi, je vous demande de relire et d'améliorer la loi dans le sens que j'indique. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. C'est son droit, c'est prévu par la Constitution. Donc, il a un droit de veto. Donc, on ne peut pas considérer cela comme un carton rouge, comme un désaveu total. Je pense que le travail qui a été fait par notre Parlement était fait correctement. Mais, il est apparu qu'il y a certains problèmes posés par l'affectation de certaines recettes additionnelles. Ce n'était pas prévu. Et lorsqu'on a voté cette loi, les membres du Parlement n'avaient pas une vision globale des implications de l'attribution de l'affectation de recettes par rapport aux engagements de notre pays dans le cadre de nos relations avec les institutions de Bretton Woods.
Mais professeur Tibango, dans la commission paritaire, quand même, il y a des membres du gouvernement qui prennent part à ces travaux.
Monsieur Rung, je ne veux pas ce soir rentrer dans la polémique de savoir qui est responsable de quoi, qui a bien travaillé, qui a mal travaillé. Non, le problème est là. Le président de la République a renvoyé la loi en seconde lecture. Nous attendons, parce que la session extraordinaire commence le 15, vendredi, c'est pas loin. Nous attendons que le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat, je crois qu'ils travaillent ensemble. Au cours de cette émission, je vais dire un mot, selon moi, sur ce qu'il faut faire pour qu'on puisse nous en sortir, n'est-ce pas? Donc, nous attendons vendredi prochain qu'on nous présente les observations faites par le président de la République de manière officielle et nous allons les examiner vendredi.
D'après plusieurs observateurs, vous, parlementaires, vous vous êtes octroyé la part du lion, presque 50% de ces recettes additionnelles. C'est ce qui a fâché le président de la République.
Je vais dire une chose, M. Hiron. Notre pays, et plus précisément notre peuple, se trouve dans un état d'esclavage par rapport au service de la dette extérieure. Notre peuple paye chaque mois, en tout cas chaque année, environ 400 millions de dollars pour payer les intérêts sur la dette que notre pays a contracté, qui s'élève à environ 13,5 milliards, disons, arrondissons, 14 milliards de dollars. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'obtenir la réduction de cette dette en atteignant ce qu'on appelle en langage technique le point d'achèvement. Donc si nous arrivons à satisfaire à certaines conditions posées par nos partenaires bilatéraux et même multilatéraux, n'est-ce pas, nous pouvons obtenir la réduction de cette dette de l'ordre de 80 à 90%. Donc de 13 milliards ou 14 milliards, on peut ramener cette à 2 ou 3 milliards à peu près. Donc, si dans le cadre du budget 2010, on a pu attribuer ou affecter certaines recettes dans le cadre de l'augmentation des salaires, et s'il s'avère que cette augmentation des salaires, disons la rémunération globalement, soit du Parlement, soit d'autres catégories sociales ou du gouvernement, si cette augmentation peut empêcher notre pays d'arriver à réaliser l'une des conditions posées par le Fonds monétaire, notamment la maîtrise des finances publiques, eh bien, je suis d'avis qu'il faut absolument couper, sans discussion, couper cette augmentation et ramener l'enveloppe globale de rémunération dans le pays dans les limites discutées avec le Fonds monétaire international. Je crois que ça, c'est très important. Il faut tout faire, M. Young, pour que notre peuple soit libéré de l'esclavage de la dette extérieure qui pèse sur ses épaules.
Professeur Mbouéboa Kalala, vous êtes politologue et professeur à l'Université catholique du Congo, faculté catholique de Kinshasa. Vous venez de suivre les deux députés. Pour l'un, Jean-Claude Nvoemba, il s'agit d'un carton rouge, un véritable désaveu et au gouvernement et au Parlement. Mais pour le professeur Chibangu, c'est simplement un droit de veto reconnu au président de la République.
Oui, c'est vrai, c'est un droit de veto qui lui est reconnu, il peut l'exercer comme le professeur a indiqué, dans la Constitution c'est prévu, mais ce n'est pas habituel aussi, hein. Donc ce n'est pas, on ne peut pas non plus banaliser le fait que le chef de l'État demande au Parlement de revenir sur le budget.
C'est quand même la première fois, hein, si je me trompe.
Je crois que ça, ce n'est pas habituel, et donc... on doit prendre ça au sérieux dans la mesure où les députés qui sont supposés défendre les intérêts, n'est-ce pas, de toutes les couches sociales et qui doivent nécessairement prendre en compte toutes les dimensions que le professeur Kala Tibang est en train d'avancer ici, ne l'ont pas fait correctement. Et donc, les chefs de l'État leur demandent maintenant de se mettre au travail et d'intégrer tous ces paramètres-là. Mais ils auraient dû le faire déjà à leur niveau. Donc c'est quand même un acte important et significatif du chef de l'État. Et le chef de l'État aussi, je crois qu'il faut le féliciter de l'avoir fait. Parce que tel que le budget lui a été présenté, il semble quand même qu'il posait des problèmes sérieux par rapport à tous ces éléments qu'on a relevés, qui ont été aussi mis dans la presse.
Les auditeurs sont très nombreux à réagir, hein, professeur Mbouéboa, bien sûr, Manigabe, Mouchobora de Goma en Nord Kivu, qui dit, je pense que cet acte du président, et tant d'autres actuels tombent dans le calcul électoral, c'est la campagne électorale anticipée. Aux îles de Bukavu, Sud Kivu, si le chef de l'État posait de tels actes au début de son mandat, le peuple congolais lui serait reconnaissant. Mais aujourd'hui, le sérieux dont il fait preuve ne laisse-t-il pas croire à un repositionnement en prévision des élections de 2011? Le peuple reste sur sa vigilance, professeur Mbouéboa.
Mais je crois que le chef de l'État, c'était un homme politique. Alors, lui reprocher de poser des actes politiques, ce serait quand même trop lui demander. Du moment qu'il pose un acte qui est dans l'intérêt général, je pense qu'il faut l'encourager, il faut le féliciter pour cela, et il faut surtout le soutenir, aller dans ce sens-là, parce que ce n'est pas toujours facile. C'est une loi qui a été votée par la majorité qui le soutient. Hein, la majorité a voté, même l'opposition, hein, on a dit aussi l'opposition a voté, s'est retrouvée dans ces avantages-là. Ce n'était pas que les avantages des gens de la majorité. Hein, mais donc, le fait que le chef de l'État pose cet acte-là, moi je pense qu'il faut vraiment l'encourager. Parce que ce sont ces députés-là qui soutiennent cette majorité. Alors, s'il leur demande de revenir à la table pour rediscuter et prendre en compte tous les facteurs, je crois que c'est important.
Honorable Jean-Claude Nvoemba, Pepe Lisungi, Botomoito de Kisangani en province orientale, dit le renvoi du budget au Parlement par le président de la République est salutaire car le chef de l'État manifeste le souci d'améliorer la situation sociale des fonctionnaires, des militaires et policiers. Par ce geste du président, nous comprenons aussi que les parlementaires que nous avons élus et qui ont accepté ce projet de budget ont d'autres intérêts que le peuple.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire les auditeurs de l'Est, de Kivu et de Kisangani. Avant toute chose, j'aimerais un peu expliquer à l'honorable Kalala Kibangu, ce grand et estimé collègue que je respecte beaucoup, que le droit de veto est le seul article du juridisme. Mais dans le fond actuel, c'est une conséquence politique qui d'ailleurs est une impression par nos frères et sœurs de combat qui vient de vous envoyer le SMS. Tout simplement pourquoi? Le Parlement est une institution éminemment politique. Tout se décide au Parlement au niveau réellement, au niveau de réflexion politique et même gouvernementale. S'il n'était pas cette majorité mécanique, mais les gens allaient autant réfléchir avant de voter le temps qui arrive au Parlement. Donc ce que je peux dire, c'est le président de la République, s'il était dans la salle, l'honorable Kalala Kibangu s'accorde avec moi, voterait contre, comme les gens que le monde
a dit,
le professeur Bouna Vidaï de le dire, ce n'est pas du sens. Normal que le chef de l'État puisse manifester son désarroi par rapport à un budget que l'opposition avait déjà critiqué à son temps. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que nous avons dit? Parce que le problème, il faudrait quand même revenir. Pourquoi l'opposition, surtout l'opposition, l'opposition radicale de l'Assemblée nationale, nous avons refusé ce budget? Nous sommes rendus du compte que le troisième palais de Bouddhi, qui englobe et qui engendre l'évaluation, qui engendre l'amélioration des policiers, des militaires, des agents de sécurité, des professeurs, des enseignants, des médecins, des infirmiers, toute la catégorie qui englobe la fonction publique n'a pas été prise en compte.
Honorable Mbouéba,
nous allons parler de Bretton-Woods. Je suis d'accord avec eux. Honorable, il ne faut pas attendre le mois de novembre, pardon, le mois d'octobre, le mois de septembre, octobre, novembre, pour se rendre compte que, effectivement, il faudrait respecter les aspirations de Bretton-Woods.
Honorable Kalala Kibangu,
quand il dit que, effectivement, le Congo paye une certaine forte somme par rapport au remboursement des intérêts de la dette.
Honorable Mbouéba,
depuis 3 ans et demi, 4 ans, le gouvernement disait la 1-2, Mojito 1-2, avait réellement perçu que la population congolaise ne pouvait pas aller au-delà, ils auraient pu demander des sacrifices à la population congolaise à mettre en condition pour que la gouvernance puisse être établie à la face du peuple congolais. Et je crois que ce peuple acceptera ce sacrifice.
Honorable Mbouéba, une toute petite question. Il semblerait qu'on vous aurait octroyé 50% à vous, les parlementaires, à supposer que le président de la République avait promulgué voilà, cette loi. Auriez-vous refusé ces avantages?
Le problème, l'honorable Jean-Claude Vaughan, c'est que le groupe Protel ne vote jamais pour le budget de l'Assemblée nationale. Nous ne le votons jamais parce que nous sommes en mesure de regarder jour par jour la souffrance de cette population. On était contre, on avait déjà dénoncé en pleine Assemblée nationale quand le Premier ministre est arrivé. Là où moi je condamne les amis de l'honorable Kalala Kibangu de la majorité, au lieu de commencer par étudier le premier semestre du gouvernement de l'exécution du budget, ils se sont d'ailleurs personne.
Honorable,
on a pu intervenir tous en attendant seulement pour la défense du budget 2010.
Honorable,
à partir de l'exécution du premier semestre du budget 2011, on aurait quand même pu directement comprendre que la route était mauvaise et la route était banalisée.
Honorable
Mbouéba, c'est un opposant. Jean-Claude Mbouéba, c'est un opposant radical.
Honorable Mbouéba, Essayons de nous comprendre, cette émission, c'est un débat de questions-réponses. Si vous monopolisez la parole, on ne s'en sortira pas. J'ai compris que vous avez évité de répondre à ma question. Professeur Kibangu, il y a Yves Loubouli de Lubumbashi Katanga qui dit « Je pense que la lecture faite par le président doit interpeller ceux qui ont élaboré ce projet de budget. À la place du ministre du budget, je démissionnerai. »
Oui, mais sérieux, je vais dire ceci à ce sujet. On peut opérer deux lectures du veto présidentiel. La lecture juridique, c'est celle que j'ai donnée, en estimant que le président de la République a un droit de veto, il l'a reconnu par la Constitution. Il l'a exercé. Là, il n'y a aucun problème. Mais on peut aussi opérer une lecture politique. C'est ce que mon collègue Jean-Claude Vemba vient de dire. Il est clair, il ne faut pas mâcher les mots, M. Young, le veto présidentiel dans le cas d'espèce sur une question sensible. Question d'argent. Vous savez combien les Congolais sont très sensibles sur la question d'argent. Eh bien, le veto présidentiel sur cette question d'argent, n'est-ce pas, est clairement un désaveu politique sur le travail effectué par le Parlement. Ça, il ne faut pas discuter. C'est tout à fait clair.
Donc le président désavoue sa propre majorité.
Mais c'est tout à fait clair. Il ne faut pas lâcher les mots. Monsieur Yerung et Jean-Claude Mbouema a tout à fait raison. Il ne faut pas. Et maintenant, le problème, c'est de voir qu'il ne faut pas qu'il y ait de sacrifice, qu'on demande aux parlementaires ne concerne que les parlementaires. Il faut aller à tous les niveaux. Il faut aussi qu'au niveau de la présidence de la République, j'insiste, monsieur, il faut aussi qu'au niveau de la présidence de la République, qu'on coupe dans les budgets, dans les crédits, pour pouvoir diminuer le train de vie au niveau de la présidence de la République. Il faut arriver aussi au niveau du gouvernement. Ça ne doit pas s'arrêter seulement au niveau du Parlement. Donc, à tous les niveaux, il faut qu'on serre de très près le train de vie de l'État de manière à permettre notre pays d'arriver au point d'achèvement. C'est très, très, très important. Même en récupérant l'argent qu'on a pu augmenter sur les rémunérations de tête de en redistribuant aux travailleurs, aux policiers, pas aux militaires, c'est très bien, mais ça ne va pas résoudre le problème.
Alors, quelle serait la conséquence politique de ce désaveu?
Non, il ne faut pas aller plus loin, chercher des conséquences politiques ou de demander des démissions, comme notre ami de Lubumbashi le souhaite. Non. Le travail a été fait par le Parlement, c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Le Parlement a travaillé sur un projet, c'est pas un projet de loi proposé par le gouvernement. On l'a amélioré, mais dans l'affectation de certaines recettes, d'ailleurs des recettes additionnelles, il y a eu des problèmes qu'on est en train de corriger. Et qu'on va corriger absolument. Parce qu'il ne faut pas que le Parlement porte la responsabilité de l'échec de notre pays d'atteindre le point d'achèvement. Moi, je suis prêt à voter le nouveau projet de loi amélioré suivant les recommandations du président de la République parce que, comme je l'ai dit, M. Yerung, notre peuple doit être libéré le plus vite possible de l'esclavage de la dette extérieure.
Professeur Mbouéboa, brève réaction avant de passer à notre deuxième thème. C'est un désaveu sur le plan politique. Vous avez suivi votre commentaire.
Non, mais ça c'est clair, je venais de le dire. Donc, le fait que le chef de l'État demande au Parlement de retravailler n'est pas fait anodin. C'est quand même important. Alors, un autre élément, c'est que les parlementaires doivent quand même se mettre en tête qu'ils ont été élus pour défendre les intérêts de toute la population. Ils ne doivent pas penser qu'ils sont les seuls à être dans les besoins d'argent. Et malheureusement, même les budgets passés, je dirais même les deux derniers budgets, il y a des choses qui ont été déclarées à faire pour améliorer les conditions des autres couches, des autres catégories sociales, et qui n'ont pas été exécutées. Mais pour le personnel politique, là, ils ont veillé à ce que ce qu'ils ont acquis soit exécuté. C'est ça aussi. Une chose est d'écrire, ils peuvent corriger, redresser. On va promulguer la loi. Au moment de l'exécution, il y a des rubriques qui concernent les autres catégories sociales qui vont rester non exécutées, mais ce qui concerne le personnel politique sera exécuté. Donc là aussi,
c'est le professeur Kibangu a demandé que l'on réduise sensiblement le train de vie de la présidence de la République et de toutes les institutions.
Mais je pense que ça, c'est ce qu'on attend de tous les dirigeants politiques. Mais dans notre pays, je pense que ça reste illusoire parce que jusqu'à présent, les personnes politiques congolais n'ont pas fait montre de cela. Donc ça reste un vœu qui n'est pas du tout respecté, qui n'est pas du tout suivi. Et vous le savez, actuellement, le chef de l'État a aussi plusieurs fois insisté sur la question de gouvernance, la lutte contre la corruption. Et la corruption, c'est justement le fait que les gens veulent mener une vie au-delà de leurs moyens.
Deuxième sujet de cette émission, Karel De Gucht, commissaire européen au développement, interdit de fouler le sol congolais pour des propos jugés malveillants à l'endroit du gouvernement. Comment comprendre cette réaction du gouvernement avant de poursuivre? Voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Karel De Gucht, commissaire européen au développement, déclaré indésirable en RDC. C'est ce qui ressort d'une lettre du ministère des Affaires étrangères de la RDC, adressée à la Commission européenne le 2 janvier dernier et citée dans un article du journal La Libre Belgique. Le gouvernement congolais proteste contre les propos qu'il qualifie de malveillants tenus par Karel De Gucht le 16 décembre dernier au Parlement européen. Plus de détails avec Basile Bakumbale.
La Commission européenne fait beaucoup pour l'aide humanitaire et le programme destiné à rétablir le règne de la loi. Mais le problème, bien sûr, est quelle est l'efficacité de tout ceci si vous n'avez pas de contreparties appropriées dans l'arène politique. C'est peut-être l'un des extraits de propos de Karel De Gucht qui aurait énervé le gouvernement congolais. Selon un article mis en ligne par la Libre Belgique, la RDC suspend tout octroi de visa à Karel De Gucht pour protester contre ce propos tenu au Parlement européen. Propos qu'il considère comme étant, je cite, un procès du fonctionnement de l'État congolais dans des termes auraient l'air notoirement raciste, irrespectueux et irresponsable. Cet incident intervient à la veille de la visite à Kinshasa de Karel De Gucht annoncée pour ce mois de janvier. Mais selon la même source, le gouvernement congolais précise que sa venue n'est pas souhaitée et que toute demande de visa pour lui sera considérée comme une provocation. Encore un incident au moment où les relations bilatérales entre la RDC et la Belgique, son pays d'origine, étaient en train de se réchauffer. Rappelons qu'avant cela, les nuages entre ces deux États s'étaient encore assombris à cause de propos jugés discourtois tenus toujours par la même personne.
Pour sa part, le commissaire européen estime que la réaction congolaise est allée trop loin et qu'elle n'était pas normale. Karel De Gucht, qui s'exprimait sur la radio belge VRT1, citée par l'agence belga, affirme que son analyse était objective et qu'elle est ressentie comme telle au sein du Parlement européen. Il précise être intervenu au nom de la Commission européenne et assure que son intervention avait été concertée avec Catherine Ashton, haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne. De Gucht ne remet toutefois pas en question la récente série de mesures européennes pour la RDC d'un montant de près de 280 millions d'euros. Mettant en avant l'importance primordiale de l'aide à la population civile en RDC, il refuse de faire de cette polémique une affaire personnelle. Karel De Gucht a déclaré, je cite, « Je pense que plusieurs choses au Congo fondamentalement ne fonctionnent pas et que la population en paie à un prix particulièrement élevé. J'ai déjà dit tout cela une dizaine de fois de manière diplomatique. Je pense l'avoir dit désormais de manière très correcte et claire. » Fin de citation. Professeur Chibangu Kalala, comment comprendre cette réaction du gouvernement finalement?
Écoutez, M. Hiron, cette année, c'est l'année du cinquantenaire de notre pays. Nos relations avec la Belgique sont dans un état tel qu'aujourd'hui, on peut dire que ces relations sont bonnes. Après avoir été assombri dans un passé récent, toujours par le comportement de M. Karel De Gucht. Au moment où nous parlons, Karel De Gucht se trouve maintenant à l'Union européenne, qui est un partenaire majeur de notre pays. Je pense que notre gouvernement aurait pu se comporter autrement.
Comment, par exemple?
Il ne fallait pas tomber dans le piège de Karel De Gucht, qui est un provocateur, qui, pour se faire connaître à travers le monde ou en Europe, il faut qu'il critique un peu la RDC et ses dirigeants. Bon. Il fallait, j'espère qu'on l'a fait aussi, on l'a pas fait, il faut le faire, il fallait élever une protestation vigoureuse de notre pays contre le comportement de M. Karel juste auprès de ses chefs hiérarchiques. Il en a au moins deux, c'est l'actuel président de l'Union européenne, qui est encore un Belge, Van Rompuy, qui est président de l'Union européenne, je crois qu'il est entré en fonction il y a à peine quelques jours, et puis le président de la Commission européenne, qui est son chef direct, M. Barroso. Il faut protester contre le comportement des choses. Bon, en disant très bien, mais comment voulez-vous que nous puissions collaborer, coopérer avec l'Union européenne, quand le numéro 1 de l'Union européenne chargé de la coopération et du développement se comporte et fait des actions déjà contre notre pays.
Donc, vous pensez qu'elle lui interdire de fouler le sol congolais, c'était un détail.
Je trouve qu'on est allé trop loin, ça ne sert à rien. Là, on tombe dans un piège. Parce que si vous voulez collaborer, coopérer avec un pays, et si vous ne donnez pas le visa à son ministre des Affaires étrangères, comment vous allez travailler? C'est un non-sens. Maintenant, si vous dites que Carré de Luche ne peut pas venir au Congo, mais c'est votre interlocuteur privilégié pour collaborer, coopérer avec l'Union européenne. Comment, s'il ne peut pas venir ici, comment vous concevez par la suite la coopération de l'Union européenne?
Très rapidement,
vous allez laisser passer ce monsieur qui vient au Congo, et puis qu'on dise le monsieur Carrel, vous venez au Congo, vous dites qu'il y a des incompétences, vous venez ici, vous allez parler avec qui? Voyez-vous, il va lui-même tomber dans son propre piège. Donc, on aurait pu procéder autrement, protester de manière vigoureuse, n'est-ce pas, contre le comportement de monsieur Carrel, juste. Et s'il veut venir ici, qu'il vienne et qu'on dise au monsieur, vous venez faire quoi? Ici, parce qu'on est des incompétents. Bon. Et donc, il y avait moyen de faire autrement les choses. C'est l'Union européenne qui nous intéresse, et pas M. Carrel de Guste. Et donc, il fallait tomber dans ce piège-là, où qu'on commence à gérer le problème Carrel de Guste, Carrel de Guste, alors que ce n'est pas lui qui nous intéresse, c'est l'Union européenne. Donc, il fallait pas tomber dans son piège.
Honorable Jean-Claude Nvoumba, êtes-vous du même avis que le gouvernement congolais est tombé dans le piège de Carrel de Guste?
Je ne veux pas avant de s'attaquer à Carrel de Guste, comme l'a fait la diplomatie française, il faudrait savoir que la diplomatie d'un pays n'est que le reflet de sa politique intérieure. En lui-même, le président de la République, Joseph Kabila, s'intéressant à la presse belge, dirait qu'il n'a pas plus de 15 collaborateurs qui peuvent amener à bon escient son projet pour le Congo. Et comment voulez-vous que aujourd'hui, je suis d'accord avec vous sur le fond, sur la forme, que bon, M. Carrel de Guste, vous savez, les Occidentaux n'ont pas des gants. Les Occidentaux, je vous ai dit, ils ne sont pas des gants. Mais sur la forme, sur le fond, M. Carrel de Guste est en train de dire ce que le président Joseph Kabila a déclaré. C'est pour cela que nous disons tout simplement ceci. Est-ce que dans cette affaire, qui gagne et qui perd, comme disent les joueurs du CAF, parce que le Congo a énormément besoin de l'Union européenne, surtout de ce comité au développement, qui a plus de 200 000 dollars pour la population du Congo. La population du Congo, c'est pas Kinshasa. La population, c'est cette population que je viens de croiser ici dans mon siège électoral, à Kasangoulou, à Kisantou, à Sotepanda, à Lomoji. C'est justement la population qui est à Goma, qui est à Bukavu, qui vient de subir les arbres, y compris le secteur à Tomo. Quand vous entendez que le ministre des Affaires étrangères français, M. Bernard Kouchner, octroie 200 000 dollars pour plus de 106 000 réfugiés de Tongo, nous nous posons des questions. Nous disons tout simplement ceci. Nous sommes dans l'année de cinquantenaire. Le Congo attend beaucoup, parce que ça c'est l'honorable cher collègue estimé par la Tibango qui vient de le soulever. Nous sommes dans l'année de la cinquantenaire. Et alors, tout le gouvernement congolais attend le bol de la Belgique pour que les fasses puissent être à son rang. C'est pour cela que nous disons, à toutes les épreuves que le Congo a eues par rapport aux Belges, le Congolais a toujours perdu. Même à l'époque du grand puissant maréchal Mobutu. C'est pour cela qu'il est grand temps que ce ministre, notre ministre des Affaires étrangères, se rende compte que une mousse ne se bagarre pas avec un éléphant. Qu'on octroie le visa à Carrel de Guste, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable Kalala Kibangu, et qu'il vienne pour la population congolaise, le peuple congolais, et non pour le beau bureau du tapissier, du climatiseur, du ministre des Affaires étrangères.
Merci, honorable Nvoumba. Professeur Mbouéboa, piège de Carrel de Guste, le gouvernement est tombé dedans. Jean-Claude Nvoumba rappelle que le président Joseph Kabila lui-même avait déjà déclaré qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui. Tout cela ne fait-il pas boule de neige?
Oui, je pense qu'il est important de distinguer les propos de Carrel de Guste, de la Belgique d'abord, qui est son pays d'origine, mais il parle comme commissaire européen. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. C'est le gouvernement belge.
Entre l'individu et...
La Belgique, l'État belge et l'Union européenne. Maintenant, il agit au nom de l'Union européenne. Donc, il ne faut pas perdre de vue que l'Union européenne, c'est quand même un partenaire important, hein, qui peut vraiment apporter un appui déterminant. À la RDC, on a vu sa contribution, notamment dans le processus électoral. Hein, donc, il ne faut pas, justement, que pour des propos du commissaire européen, qu'on connaît déjà ici chez nous, hein, qu'on connaît, qu'on puisse justement provoquer encore une autre bruit entre la RDC et l'Union européenne. Parce que entre les deux, c'est plus la RDC qui est dans le besoin, hein, de cette coopération-là. Et donc, en entrant encore une fois en conflit, j'ai craint que la RDC perde des avantages à mettre à disposition de la population. Et je comprends que pour des politiciens qui sont ici dans la capitale, ça ne soit pas ressenti de la même manière. Encore que le propos de Karl Degert concerne en fait toute la classe politique. Hein. En fait, c'est une critique qui est adressée à toute la classe politique. Mais déjà, comme on le dit là, le fait que le chef de l'État retourne le budget pour que le parlementaire s'assoie de nouveau pour prendre en compte les couches pauvres, ainsi de suite. C'est aussi la même logique, non? En fait, on veut montrer aux députés que les députés ont plus pensé à eux-mêmes que de penser à l'ensemble du peuple congolais. Maintenant, l'autre, Karl Degert, parce que par le passé aussi, hein, il a tenu des propos qui ont provoqué des réactions ici, il l'a dit. Alors, vous voyez, chez nous ici, nous multiplions un peu la réaction, hein. Donc, nous trouvons que c'est très grave. Mais en fait, comme l'honorable Vimbal vient de le dire, le chef de l'État le dit aussi. Hein, le dit souvent aussi pour dénoncer le mal qui règne dans la classe politique congolaise et inciter la classe politique congolaise à assainir les mœurs, à s'améliorer.
Il nous écrit du Cassia occidental, il s'appelle Lambert Eloi, et il dit « Nous sommes très gênés de cette déclaration de Karel De Gucht, que le gouvernement prenne ses responsabilités en traduisant le ministre belge à la coopération en justice suite à ses propos malveillants, professeur Brevois. »
Bon, c'est un point de vue, hein, c'est un point de vue. Maintenant, la RDC, c'est un État, hein, c'est un État, et l'État doit voir de quelle manière réagir, hein. Un État ne réagit pas comme un individu. Je comprends que parfois, il y a des individus qui se sentent offensés particulièrement par ces propos, mais lorsque nous réagissons comme État, je souhaite que les réactions officielles tiennent compte de plusieurs paramètres, qu'elles tiennent surtout compte des intérêts du Congo. Les intérêts du Congo ne sont pas que les intérêts de la classe politique, qu'on voit aussi les intérêts du Congo profond. Et ce Congo profond a besoin de cette aide. L'Union européenne agit dans les domaines des trains, on parle de l'agriculture, hein, sans parler du soutien aux institutions politiques, sans parler de l'eau, sans parler de l'électricité. Ce sont des questions qui intéressent la population.
Professeur Chibango Kalala, je vais ramasser rapidement trois petites réactions des auditeurs qui nous viennent du Katanga. Henri de Lubumbashi, pourquoi les dirigeants congolais n'aiment jamais qu'on leur dise la vérité? Le Congo a besoin des dirigeants qui respectent le peuple et qui réalisent leurs promesses et pas rester sur les discours. Victor de Lubumbashi encore, dans les propos de Karel De Gucht, c'est peut-être la forme qui est condamnable, mais dans le fond, il a raison. Je pense que la meilleure façon d'éviter ce genre de propos, c'est de prouver le contraire à De Gucht en gérant bien les choses. Guy Moussengouzi de Lubumbashi également, si Karel De Gucht n'a pas de compte personnel à rendre à certaines personnalités politiques de notre pays, il appartient au Parlement et surtout à la majorité présidentielle ANP, vu de l'extérieur, de se rendre compte de la façon dont elle rend service au chef de l'État et à la population. Cela renforcerait la souveraineté de notre pays.
Oui, M. Rung, comme je l'ai dit au début de cette émission à propos de la déclaration de M. De Gucht, eh bien, je réaffirme ce que je dis, notre gouvernement est tombé dans le piège de Karel De Gucht. C'est un provocateur. Ce qu'il fallait faire, je l'ai dit, c'est de répliquer de manière correcte. Ce n'est pas diplomatique. Parce que nous sommes déjà dans l'année électorale. Nous aurons besoin de l'aide de l'Union européenne pour le processus électoral,
pour le développement, pour l'aide à la société, et donc ce n'est pas le moment. Et au cours de cette année, c'est l'année du cinquantenaire, nous avons besoin d'avoir des relations vraiment excellentes, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, pour donner une autre image de notre pays.
Ça, vous l'avez déjà dit, professeur, mais il y a Victor de Lubumbashi qui dit que les propos de Karel de Gucht, c'est peut-être la forme qui est condamnable, mais il a raison. Qu'est-ce que vous en dites?
Mais écoutez, monsieur Irung, nous avons nous-mêmes des problèmes dans notre pays. Il y a des critiques, la presse, vous, les hommes, les journalistes, nous-mêmes, hommes politiques, nos sociétés, il nous arrive aussi de critiquer nos propres dirigeants, leur comportement. Nous ne disons pas que, ici, dans notre pays, tout marche comme si nous étions au paradis. Il y a des problèmes, nous avons des dirigeants qui ne sont pas à leur place, qui ne font pas ce qu'il faut faire, et bien ça, il ne faut pas se voiler la face. Et si on le dit par les étrangers, ce n'est pas la mettre de manquer de sang-froid. J'ai dit que les autorités congolaises ont fait preuve de manque de sang-froid devant les propos tenus par M. Eljus. Ce qu'il a dit, il y a aussi du vrai dans ce qu'il a dit. Et donc, il ne fallait pas tomber dans ce piège.
Et comment récupérer la situation en ce moment?
Oui, mais récupérer la situation en ce moment, c'est quoi? C'est qu'il faut très vite rétablir nos relations avec l'Union européenne. Je dis que l'État congolais, le gouvernement congolais ne va pas coopérer correctement avec l'Union européenne si notre principal interlocuteur pour des questions de développement et de coopération ne peut pas venir ici au pays. Je ne sais pas comment on va travailler. Et donc, il faut absolument mettre fin à cet embargo, ce refus de visa contre Karel de Gucht pour l'intérêt du pays. Il faut faire preuve de sang-froid, il faut avoir la tête sur les épaules, garder raison et ne pas rentrer, tomber dans la provocation de Karel de Gucht. Moi, je demande, c'est mon avis personnel, pour moi, Karel de Gucht doit venir ici, parce que s'il vient ici, ce n'est pas Karel de Gucht qui vient ici, c'est l'Union européenne qui vient ici, c'est notre pays.
Honorable Nwemba, il y a Alain Lomandia de Kinshasa qui dit « J'encourage le gouvernement dans cette décision de souveraineté, Karel de Gucht est peut-être un arbre qui cache la forêt, à notre gouvernement de tirer profit des critiques malveillantes pour plus de cohérence interne et plus de transparence dans la gestion. Je vous demande une très brève réaction qui sera aussi votre conclusion parce que l'émission va toucher à sa fin. »
Ce que je pourrais dire, je dirais tout simplement ceci. 50 ans après l'indépendance, il est temps que nous ne puissions plus avoir des réactions épidermiques. Nous devons nous montrer adultes. Pour couler le but à Karel de Gucht, il y a deux choses. La première, c'est la bonne gouvernance. La seconde, c'est d'avoir des interlocuteurs qui ne seront aucunement gênés à travers les turpitudes. C'est pour cela que nous devons tout simplement dire ceci à nos autorités. Regardez-vous devant la glace, le reflet que vous donnez à la face du monde. Et d'ailleurs, j'en suis convaincu et j'en suis ravi que l'honorable Karel Atsibanga puisse dire que tout le comportement de nos dirigeants laisse à désirer. Où est la tolérance zéro? La tolérance zéro doit aussi y aller à travers ces genres de comportements.
Merci.
Nous ne sommes plus à où, je ne suis pas là, nous ne sommes plus à l'heure où nous devons toujours être en bagarre avec la Belgique, avec l'Union Européenne. Souvenez-vous, s'il y a eu des élections, parce qu'il y avait un Michel qui était chargé, commissaire général chargé du développement de l'Europe, que l'Union Européenne a pu mettre 500 millions de dollars. Nous ne voulons pas que ces gens puissent cacher les élections en 2011.
Merci.
Nous avons besoin des élections, nous avons besoin de l'Union Européenne.
Merci honorable. Professeur Mbouéboa, bref, réaction et conclusion également.
Je pense que la RDC a intérêt à harmoniser les relations avec tous les partenaires, développer la stratégie, la diplomatie agissante et réaliste.
Professeur Tshibangu, votre conclusion.
Oui, monsieur Rook, moi je reviens sur la question du budget pour dire que j'ai appris, selon votre confrère, que le gouvernement envisageait de déposer un projet de loi pour demander des crédits provisoires. Je pense que la solution n'est pas là. Ici, le budget a été déposé en temps et en heure, ça. Selon l'article 126, on ne peut demander des crédits provisoires que si le budget n'a pas, qui a été déposé en temps, n'est-ce pas, pour être provisionné, n'a pas été fait, n'a pas été promulgué. Mais on n'est pas dans cette hypothèse-là. Il faut envisager une autre solution. C'est que déjà le 15, quand nous rentrons le 15, qu'on vote déjà le nouveau budget avec les observations du président de la République, puis on avance.
Merci, professeur. Cette émission est terminée. Merci à vous qui avez été des millions à nous suivre également par Internet sur www.radiocapi.net. Merci à nos invités d'avoir contribué à cet échange. Kéline Couty a réalisé cette émission assistée de Samuel Kachak sous la coordination de Martin Sebou-Jangwe. Guy Manzangwe était à la mise en onde. À demain.
Thank you.